un podcast France Culture.
Et toi, qu'est-ce que tu cherches?
Ça t'intéresse?
Qu'est-ce que tu vas chercher à Katmandou?
La seule chose qui compte, l'argent.
Mais tu es fou! C'est ce qui compte le moins.
Bah qu'est-ce qui compte alors? Comment tu veux faire pour être plus fort que les salauds?
Et si tu te remplis d'argent, tu deviens aussi un salaud? Moi j'en avais, tant que j'en voulais. Mon père en est plein! Il en prend à tout le monde et tout le monde lui en arrache des morceaux. Il crie comme si c'était sa peau. Qu'est-ce qu'il fait, le tien?
Le mien qui?
Ton père, il est riche?
Il est mort quand j'avais 6 mois.
La voix de Jane Birkin que vous venez d'entendre dans Les Chemins de Katmandou, réalisé par André Kayat en 1969. Elle incarne une jeune idéaliste que croise au Népal un étudiant désabusé par les événements de mai 68, une fiction adaptée d'un roman de René Barjavel. Le précurseur de la science-fiction à la française navigue tout au long de son œuvre entre utopie et dystopie, entre un monde dominé par les machines et une vie en communauté marquée par le retour à la Terre, de ravage à la nuit des temps, en passant par Le Diable l'emporte, la SF a rendez-vous aujourd'hui avec l'économie. Pour évoquer l'économie selon Barjavel, nous accueillons Natacha Vazder avec nous à distance, chercheuse associée à l'université Bordeaux-Montaigne, présidente du festival Hypermonde et autrice de cet ouvrage « Science-fiction, voyage dans la modernité » dont une édition augmentée apparue en janvier aux éditions Mouton Électrique. Également avec nous en duplex de Nice, Hugo Bellagamba, écrivain, historien du droit et des idées politiques, auteur d'un dictionnaire utopique de la science-fiction paru aux éditions du Bélial en 2023. Une émission préparée par Diane Devancet, Léa Sabourin, Anouk Milliot, Tina Young, Léopold Thiévin et Inès Gender. Bonjour Hugo Bellagamba et Natacha Vazder.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose d'entrer sans tarder dans l'un des romans de René Barjavel. Les industriels jetèrent à la ferraille leur vieil équipement. Les actions des compagnies charbonnières s'écroulèrent, suivies de peu par les actions pétrolières. Le moteur moléculaire, qu'on baptisa « Molé moteur », commença à bouleverser la vie des hommes. Au bout de 6 mois, tous les Uniprix d'Europe et d'Amérique mirent en vente un modèle ménager de Molé moteur, grand comme une lampe de poche, qui, installé à la place du compteur électrique, fournissait à l'appartement lumière, force et chaleur pour une durée illimitée. Pour 20 sous, les piétons purent acquérir des patins à roulettes à Molé moteur qui les propulsèrent sans fatigue sur les trottoirs. Le ciel des villes commença d'être encombré par des hommes qui volaient avec 2 ailes au bras, un gouvernail au pied et un atome fusant au derrière. Une moissonneuse atomique sortit à la chaîne des usines Kaiser. En 35 secondes, elle moissonnait 1 hectare de blé et livrait le pain cuit. Il s'agissait également de trouver le moyen de faire grossir plus vite veaux, vaches, cochons, couvées. C'était une lecture du roman de Barjavel de 1948, Le Diable l'emporte, un extrait qui témoigne de l'obsession du romancier pour la technologie. Il n'a cessé d'interroger dans son œuvre l'impact du progrès technique sur la vie sociale et économique, Natacha Vazder.
Oui, tout à fait, parce que Barjavel, c'est un auteur qui va placer toujours l'humain, en fait, au centre de ses romans. Donc, il va réfléchir à la place de l'humain par rapport à la technologie, à la place de l'humain par rapport donc à l'économie. Et dans cette émission, je pense que ce sera très intéressant de voir que René Barjavel, c'est quelqu'un qui à la fois propose des représentations d'un monde économique totalement idéalisé, on le verra par exemple dans La Nuit des Temps, et en même temps, René Barjavel, c'est aussi un chroniqueur, c'est aussi quelqu'un qui va écrire pendant les années 70, donc un ensemble de chroniques qui s'appelle Les Années de la Lune, entre 68, 71, et Les Années de la Liberté, entre 72 et 72. 1973, où il va livrer en fait de très nombreuses réflexions sur l'économie et sur la projection, la critique justement de notre monde, donc qui est en plein dans les Trente Glorieuses hein, à l'époque où il écrit, et qui est vraiment au cœur d'une espèce de moteur économique qui risque en fait de s'emballer. Et pour Barjavel, je le cite.
Barjavel est fasciné par la technologie, pourtant il a grandi dans un environnement où il a été au contact de la nature, dans la Drôme, Hugo Bellagamba.
Et oui, il a grandi effectivement, très justement, à Nyons, dans la Drôme provençale même pour être exact, et très proche de la nature effectivement. Son père était boulanger, il était d'une famille de paysans, et en fait c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, c'est cette ambiguïté, cette ambivalence qui est très propre à la science-fiction aussi, hein, qu'il va bien incarner, du rapport à la technologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez Barjavel de technophobie primaire ou de technophilie absolue. Il va s'interroger sur le rapport finalement entre la technologie née du génie humain, née de l'inventivité de l'esprit de l'homme, et le rapport à la nature et la façon dont le rapport à la nature évolue en fonction de l'évolution de la société. Et effectivement, ça lui donne une sorte de rationalité, de prudence que l'on retrouve dans beaucoup de ses romans.
Vous l'avez dit, son père est boulanger et ça a son importance.
C'est mon père qui était boulanger qui disait ça en riant. Pour être boulanger, il fallait être grand, fort et bête. Il n'était ni grand ni bête, mais il était fort. Et effectivement, il fallait l'être parce qu'il fallait remuer les balles de farine qui faisaient 100 kilos toute la journée et pétrir la pâte. Ce n'était pas un petit exercice. Je trouve ça merveilleux de penser que moi, je suis là, homme du XXe siècle, en train de travailler avec de la farine, que la farine vient du blé et que le blé a été inventé par mes ancêtres, par nos ancêtres qu'on dit sauvages, on ne sait pas combien de temps, il y a combien de siècles, peut-être 8000 ans ou 10000 ans, on pense que ça s'est passé en Mésopotamie.
Une archive de l'ORTF du 25 avril 1974. Le métier de son père va alimenter la réflexion de Barjavel sur le travail manuel et la mécanisation, Natacha Vazder.
Oui. Je rajoute une anecdote, Barjavel faisait son pain en fait tous les jours jusqu'à quasiment la fin de sa vie, et donc cette pratique manuelle a eu beaucoup beaucoup d'importance. Alors oui, je pense que le roman certainement qui va le plus être une dialectique entre technologie et puis le métier, l'activité manuelle des hommes, c'est Ravage. Parce que dans Ravage, vous avez dans les premiers chapitres une société extrêmement technologique qui est parfaitement automatisée, avec des modes notamment d'énergie, le nucléaire est absolument partout. Et puis, évidemment, l'électricité s'arrête dans Ravage, hein, c'est un roman d'apocalypse. Et les derniers chapitres du roman, eh bien, vont nous narrer ce retour, en fait, à une vie beaucoup plus simple, à une vie, je dirais, hantée, en quelque sorte, technologie. J'ai appelé ça une utopie régressive. Et donc, eh bien, il y a un refus total dans Ravage, en fait, de cette technologie qui a mené l'homme à sa perte, au point que, même si on peut pas empêcher les hommes d'essayer de retrouver cette technologie, même quand elle a disparu, eh bien, on va quand même faire disparaître toute trace de cette technologie, y compris à la vapeur. C'est le dernier chapitre de Ravage.
On va entrer plus en détail un peu plus tard dans ce roman très important, Ravage. Mais d'abord, il faut rappeler peut-être qu'avant de devenir écrivain, Barjavel a été journaliste et éditeur. Il continuera ensuite à être journaliste. Et c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il va publier ses premiers romans d'anticipation, Hugo Bellagamba.
Oui, en fait, ses tout premiers romans sont notamment liés à la période dans laquelle il vit, et en fait, il est intéressé par les changements du monde. En fait, ce qui passionne Barjavel, c'est le destin de la civilisation. Et en fait, ce destin de la civilisation, il le voit chanceler avec la Deuxième Guerre mondiale. Il voit ce que ça apporte, il voit ce que ça change dans la vie quotidienne des gens, et il le fait sentir dans ses premiers textes, avec une sensibilité très accrue, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur la façon dont l'impact se fait sur les individus, à la fois de la guerre, mais d'un coup, par exemple, de la perte de l'accessibilité aux ressources fondamentales. Et en fait, ce qu'il montre, dès ses premiers textes, hein, ce qu'il montre, c'est la dépendance distance dans laquelle nous nous trouvons par rapport à la technologie. Et donc c'est pas de la du rejet de la technologie, mais il montre qu'en fait, pour lui, la technologie affaiblit d'une certaine façon la capacité de résistance en fait de l'être humain, parce qu'elle lui apporte finalement trop de facilité. Et donc ce qu'il vit au quotidien et ce qu'il décrit dans ses tout premiers textes, c'est exactement ça.
Et alors, si Barjavel, on vient à la science-fiction, Natacha Vazder, c'est principalement en raison des bouleversements de son époque?
Alors, la science-fiction, pour Barjavel, d'abord son premier roman Ravage, qui a paru en 43, s'appelait en fait Colère de Dieu. Et c'est la rencontre avec De Noël. Alors, il connaît De Noël depuis 1935, vous voyez, donc ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille pour lui, qui va complètement bousculer finalement Barjavel dans sa pratique, hein, parce qu'il faisait, il fabriquait en fait des livres, hein, il n'écrivait pas des livres. Et donc, à partir de Ravage, qui va être remanié largement par Robert de Noël, eh bien, il va voir que la science-fiction, c'est un moyen pour lui, c'est la première période, en fait, de sa carrière. Eh bien, ses premiers romans de science-fiction sont pour lui véritablement un moyen de se projeter dans notre futur et essayer de réfléchir à la fois à, je dirais, une sorte d'utopisation extrême, par exemple, des moyens de production. On va avoir ça, par exemple, dans le roman de Voyageur imprudent en 1944. Dans La nuit des temps, on va avoir là aussi une civilisation, mais qui est une civilisation qui nous vient du passé. Donc une science-fiction un petit peu à rebours. Et il va, La nuit des temps, pardon, c'est plus tard, c'est en 1968. Et donc dans cette première partie, il va vraiment réfléchir à une civilisation qui va utiliser, on va dire, à fond tous les moyens de production qui peuvent être donnés par la technologie.
Ses premiers romans, ce sont donc Le diable l'emporte, Ravage, Le voyageur imprudent et Les colons de la lune. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des romans qui se vendent bien, alors même que la science-fiction ne connaissait pas à ce moment-là le succès qu'elle connaîtra plus tard, Natacha Vazder.
Alors, ses premiers romans ne se vendent pas aussi bien que la deuxième partie donc, de sa carrière, à partir justement de La nuit des temps, et dans par exemple Le grand secret, qui seront véritablement des best-sellers, hein, des page-turners, comme on a pu le dire, à propos notamment de La nuit des temps. Cette première salve de romans avant les années 50, c'est un moyen aussi. Alors Barjavel, il est tout seul en fait sur la scène, hein, de la science-fiction française à cette époque, parce qu'il y a toute une. D'abord, le merveilleux scientifique n'existe plus, qui était le grand mouvement de la science-fiction française, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Donc avant les années 40, des auteurs comme par exemple Régis Messac, Jacques Spitz. Jacques Spitz n'écrit plus de science-fiction, Messac a disparu en 1943. Et donc Barjavel, en fait, est tout seul, quasiment, sur la scène éditoriale de la science-fiction. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle, aujourd'hui encore, quand des gens ne connaissent pas beaucoup la science-fiction française, ils ne citent que Barjavel, parce que cette sorte d'isolement, à la fois, je dirais, générique et éditorial, eh bien, a fait que Barjavel, oui, c'est le romancier de science-fiction en France pour énormément de lecteurs.
Et oui, avant cela, il y a eu Jules Verne, avec lequel on peut considérer que la science-fiction française apparaît, et Barjavel s'inscrit dans la lignée de Jules Verne, Hugo Bellagamba.
Alors absolument, vous ne croyez pas si bien dire, Tiphaine, parce que justement, Barjavel a commencé par lire Jules Verne avant de se mettre à écrire. Il dit plusieurs fois, et notamment dans ses articles de journalisme, il dit plusieurs fois sa dette à l'égard de Jules Verne et son admiration. Ce qui me permet aussi de dire que finalement, il constitue, Natacha vient de le dire d'une certaine façon, il constitue un trait d'union entre l'époque vernienne, qui est un peu l'ancêtre, les racines finalement lointaines de la science-fiction, avec tout un tas de débats dans les spécialistes de la science-fiction sur savoir si Jules Verne est vraiment l'une des origines de la science-fiction ou pas, mais surtout un trait d'union entre l'époque du merveilleux scientifique et l'époque de Jules Verne, et puis l'engouement pour la science-fiction qui va arriver ensuite en France et qui va être souvent tributaire de la traduction des grands classiques américains. Et à l'époque, dans les années 40, dans les années 50, où Barjavel écrit, il fait un peu ce trait d'union. Et ce qui est très intéressant aussi par rapport à la technologie, parce qu'on l'a pas encore dit, c'est que même s'il se méfie de la technologie, il a un point commun avec Jules Verne. Il a de l'admiration pour la connaissance scientifique et le développement de la connaissance scientifique. Il lit de nombreuses revues de vulgarisation. Il se renseigne sur les dernières recherches et il aime à penser que, à travers la fiction, on peut développer les connaissances scientifiques. Et l'application des connaissances scientifiques, la technologie, ça, c'est une autre affaire.
France Culture.
Si la civilisation continue à marcher comme elle le fait, elle va se casser la gueule. J'en suis toujours intimement persuadé.
Entendez-vous l'écho?
Dans 20 ans ou dans 25 ans, nous risquons de voir ceux qui seront encore là, de voir les hommes crever comme on voit aujourd'hui les poissons crever quand une rivière est polluée. C'est ça qui attend l'humanité.
Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à parler de l'économie selon René Barjavel avec Natacha Vazder et Hugo Bellagamba. Alors, vous l'avez dit, Ravage se déroule en 2052. La société française est devenue ultra technologique. Comment décrire ce monde saturé de machines inventées par Barjavel, Natacha Vazder?
Alors, c'est pas forcément un monde saturé, en fait, de machines, mais c'est un monde, on va dire, saturé d'appareils électriques qui vont permettre un confort absolu, en fait, des habitants de cette France de 2052. Moi, il y avait quelque chose, par exemple, qui m'a beaucoup marqué. Donc, d'abord, évidemment, beaucoup de voitures et d'engins volants. Ça, c'est un petit peu un classique de l'imagerie de la science-fiction. Il va y avoir des routes, par exemple, luminescentes, des voitures donc avec un moteur nucléaire. Et puis, dans chaque appartement, eh bien, il va y avoir une pièce, donc qui est une pièce, une sorte de congélateur géant, où en fait, on va conserver les morts de sa famille. C'est-à-dire qu'on fait des mises en scène et les gens qui décèdent ne sont plus du tout, donc les corps ne sont plus du tout détruits, enterrés, brûlés, mais en fait, on les garde chez soi et donc on est complètement, totalement immergé dans la vie de sa famille et dans le passé. Alors évidemment, ce qui va poser un énorme problème quand l'électricité va s'arrêter, puisque c'est le pitch en quelque sorte du roman de Ravage et le début de l'apocalypse, parce que bien évidemment, comme le dit René Barjavel, les morts commencent à fondre dans les appartements et ça va créer bien évidemment la naissance en fait de très nombreuses épidémies. Voilà, donc c'est surtout dans Ravage cette idée qu'on va retrouver également dans Le Diable l'emporte avec l'homme civilisé, d'un tel confort qu'en réalité, l'homme ne fait plus aucun effort. Et pour Barjavel, c'est ça qui perd l'humanité.
Je me suis dit, que se passerait-il si l'énergie venait à disparaître? Que feraient les hommes? Quel serait leur comportement? Que deviendrait la ville? Et là, il m'a suffi de laisser parler la logique. Et Ravage est un roman dicté par la logique. Ce que j'ai décrit arriverait fatalement si tout à coup l'énergie commençait à manquer.
René Barjavel, dans une archive de 1974. Et oui, un jour, l'électricité disparaît et cette disparition va entraîner le chaos. Les hommes sont complètement déstabilisés par cet arrêt brutal de l'alimentation électrique. Et c'est une façon pour Barjavel de montrer qu'en effet, les hommes sont devenus beaucoup trop dépendants des machines, Hugo Bellagamba.
Absolument, et ça montre aussi le côté visionnaire de l'auteur de science-fiction qui est Barjavel, puisque il décrit en fait finalement ce à quoi notre monde est confronté aujourd'hui, hein, si on regarde attentivement. La surproduction technologique, la grande dépendance, y compris au réseau et à tout ce qui est le monde numérique, hein, finalement, d'une certaine façon, cette espèce d'ubiquité, hein, que nous cultivons et que nous sur laquelle dont nous dépendons finalement. Et c'est comme disait Jacques Guamard, hein, dans la préface qu'il avait écrite pour le volume Barjavel, il disait en fait c'est le romancier de la survie, c'est-à-dire à force de croire que nous vivons dans une société de l'abondance énergétique, ce qui était aussi d'ailleurs le fantasme de la science-fiction américaine des années 30, en réalité, dont Barjavel était aussi un connaisseur et un lecteur, effectivement, à force de croire que nous pouvons vivre dans l'abondance énergétique, nous avons oublié ce que ça signifie la précarité. Et donc, avec Ravage, il nous confronte à une précarité brutalement retrouvée et qui ressemble finalement étrangement à ce que nous vivons aujourd'hui, hein, sur les questions notamment de sobriété énergétique et de sobriété écologique que nous devons mettre en place, notamment dans les villes. Et la problématique, il y a un chapitre dans Ravage qui s'appelle « La chute des villes ». Et cette problématique, nous la vivons aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que le temps des grandes villes, des mégapoles, n'est-il pas finalement révolu ? Est-ce qu'il ne faut pas en revenir à des structures plus petites, moins dispendieuses en énergie ? Et quelles sont les alternatives véritablement que nous allons pouvoir mettre en place ? Et ce confort et cette dépendance au tout énergétique, eh bien finalement, c'est exactement ce que décrit Ravage, qui de ce point de vue-là n'a pas pris une ride dans les problématiques et dans le rapport que nous avons aujourd'hui à la nature et à l'énergie.
Et oui, parce que dans Ravage, tout est électrique, tout est même automatique. Et Barjavel, justement, s'en prend aux modes de production automatisés qui, pour lui, sont responsables de détruire le vivant, Natacha Vazder.
Oui, alors dans Ravage, il y a notamment l'automatisation absolue qui pour lui signe la fin du travail en quelque sorte, notamment avec la figure d'un super ingénieur qui finalement fait quasiment 10 ans d'études. C'est d'ailleurs le personnage de François Deschamps continue ses études à Paris pour devenir un super ingénieur. Et en fait, à la fin, alors c'est évidemment très ironique, mais il n'a plus qu'à appuyer sur un seul bouton pour faire tout fonctionner. Et ça, si vous voulez, c'est cette espèce d'ambivalence, de dichotomie chez Barjavel systématique dans une expression qui est un petit peu une expression ironique finalement du mode de la technologie, je dirais, poussée à son extrême, et puis la réalité finalement de ce qu'elle est pour l'humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent constamment à la lecture de Barjavel. Il y avait aussi par exemple une scène, moi, qui m'avait beaucoup marqué dans Le Diable l'emporte, où il y avait une super production en fait donc agricole, avec des légumes, des fruits géants. D'ailleurs, c'est une image, je pense, qu'il a dû noter également chez Jules Verne dans Le Voyage au centre de la Terre. Et donc, si vous voulez, à chaque fois cette espèce d'exagération, on a une expression emphatique en fait de la technologie chez Barjavel, et c'est là très exactement que va se situer la critique donc barjavélienne à propos de la technologie.
Et oui, il faut rappeler que Barjavel est né en 1911 et donc il a grandi dans un monde où se développaient le taylorisme et les modes de production à la chaîne, Hugo Bellagamba.
Oui, d'ailleurs, pour faire écho à ce que vient de dire Natacha, dans Le Diable l'emporte, sur le gigantisme et ce qui peut finalement résoudre, ce qui peut découler, pardon, de la manipulation du vivant, parce qu'il travaille aussi sur ça, pas simplement sur le travail à la chaîne, mais aussi sur les conséquences, par exemple, des organismes génétiquement modifiés, d'une certaine façon. Et alors, il nous décrit effectivement, à un moment donné, il y a une scène avec une poule géante qui échappe complètement à tout contrôle et qui commence à devenir si grande et si importante qu'elle devient une sorte de Godzilla, carrément, une sorte d'équivalent de Godzilla qui se met à dévorer la foule et qui montre finalement comment l'hubris finalement de l'industrialisation du vivant, parce que c'est ça qu'il pointe, les conséquences de l'industrialisation du vivant peut confronter l'humanité à des catastrophes qui sont de l'ordre de l'équivalence d'une arme de destruction massive, par exemple, avec beaucoup d'humour.
Ce thème de l'omniprésence des machines est également au cœur d'un autre de ses romans, Le Voyageur imprudent, qui est paru en 1944. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler l'intrigue, Natacha Vazder ?
En fait, dans Le Voyageur imprudent, c'est l'expression chez Barjavel, et la première fois d'ailleurs chez les auteurs français de science-fiction, du paradoxe temporel, c'est-à-dire un inventeur qui s'appelle Essaillon, qui envoie donc son gendre voyager donc dans le temps, à travers l'invention évidemment d'une machine temporelle. Et donc ce gendre, en fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas Napoléon, il pense que Napoléon est vraiment le personnage historique qui va amener à la ruine de la France, et donc il décide de partir dans le passé pour le détruire. Sauf que il ne tue pas Napoléon, mais il tue un de ses grognards, et il s'avère qu'un de ses grognards, eh bien, c'est son arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que là, ce met en place un paradoxe temporel, puisque donc le personnage qui part dans le passé et qui tue son arrière-arrière-grand-père, est-ce que finalement il va exister, puisque l'arrière-grand-père n'existe pas, il ne peut donc pas fonder en fait cette lignée. Et donc le personnage est pris dans un paradoxe et dans ce qu'on appelle une boucle temporelle. Mais ce qui me semble le plus important, moi, dans Le Voyageur imprudent, hormis cette histoire-là qui est toujours assez fascinante, eh bien, c'est la visite de l'explorateur du temps dans, en fait, l'an 100 000, c'est-à-dire dans un très lointain futur. Et ça fait totalement écho à ce que vient de dire Hugo. C'est-à-dire que là, encore une fois, on a une sorte de société qui va pousser à l'extrême l'utilisation en fait des mutations biotechnologiques, et dans ce futur très lointain, eh bien le personnage va rencontrer des hommes-outils qui servent de pelle, des hommes qui ne sont plus que des ventres, des animaux mutants avec par exemple une vache qui n'a qu'un seul pied. Et alors ça m'a tout de suite rappelé un autre roman de Xavier de Langlet, alors qui est pas du tout connu, qui s'appelle L'île sous cloche, qui est un Breton qui a écrit ce roman en 1946 et qui est le personnage en fait féminin arrive sur une île, et dans cette île, eh bien c'est l'île en fait de la production du vivant et des mutations biogénétiques. Vous voyez, donc l'automatisation, elle est aussi effectivement présente dans ce futur très lointain, et elle faisait partie véritablement des questions de l'époque, et donc vous voyez de ces romans qui très précisément donc traite de ce sujet.
Barjavel n'est pas seulement romancier, il est aussi parolier et amateur de musique. En 1969, alors qu'il était l'invité de Jacques Chancel sur France Inter, il choisissait ce disque. Le deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart, qui, selon les mots de René Barjavel, représente la musique que l'on doit entendre au paradis. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie selon Barjavel, c'est notre sujet aujourd'hui. L'écrivain Hugo Bellagamba et la chercheuse en littérature Natacha Vazder sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Grégory Wallon. Alors dans ses romans, Barjavel se demande à quoi ressemblera le travail du futur, et il entrevoit la possibilité que les hommes soient libérés par les machines, Hugo Bellagamba.
Oui, alors ça c'est très intéressant, parce que justement c'est le fantasme de l'époque en fait, c'est-à-dire la mécanisation, l'industrialisation qui va libérer les hommes finalement de la douleur et de la fatigue liée au travail. Et c'est quelque chose qu'il va chercher probablement dans l'utopie, dans l'histoire de l'utopie, et notamment dans les utopies du 19e siècle, où beaucoup d'utopistes imaginent que la mécanisation va finalement libérer l'homme de toute la fatigue et de tout le labeur. Alors qu'en réalité, eh bien, on va se rendre compte au cours de ce siècle, le siècle de l'industrialisation, qu'en réalité, eh bien, il n'en est rien. et que la mécanisation crée en réalité de nouvelles formes d'esclavage. Et donc c'est effectivement la limite de ce que nous montre Barjavel, et en ce sens, il est un excellent auteur de science-fiction, puisque justement, comme tout à l'heure, on vient de voir avec Le Voyageur imprudent, la spécialisation dans l'avenir lointain de l'humanité, c'est exactement le contraire qui arrive, c'est-à-dire que dans cet avenir lointain qu'il nous décrit, eh bien, les êtres humains sont au service de la machine et non l'inverse. Et donc cette fable, parce que c'est une fable, bien entendu, n'est pas intéressante par sa crédibilité. Elle n'est pas crédible, évidemment, mais elle montre en réalité la capacité de Barjavel à interroger le rapport que nous avons au travail et le rapport que nous avons à la machine. Et si j'avais le temps, et dans le cadre de cette émission, ô combien c'est pertinent, je citerai William Morris, dont une des conférences a été récemment réimprimée, qui s'appelle « Travail utile et fatigue inutile » et que je viens de relire il n'y a pas longtemps, qui justement interroge le rapport du travail et de la mécanisation dans l'avenir et dans la façon dont l'humanité va être asservie par la machine et non pas libérée.
Barjavel questionne le rapport au travail et son rêve, c'est de pouvoir fonder le travail sur le volontariat, Natacha Vazder. En cela, il s'inspire de l'utopie de Thomas More notamment.
Alors, je ne sais pas si on peut faire le lien vraiment entre Thomas More et Barjavel, si ce n'est que quand même, souvent Barjavel nous projette dans des utopies, et je pense notamment dans La Nuit des Temps en 1968, alors peut-être parce que c'est aussi l'époque, mais il nous projette dans un très lointain passé, il y a à peu près 1 million d'années, où il y avait une sorte de civilisation extrêmement avancée, type, on va dire Atlantide, hein, en tout cas, il s'inscrit complètement dans cette tradition donc littéraire de l'Atlantide, et donc il décrit une civilisation qui s'appelle Gondawa, et à Gondawa, eh bien, il n'y a quasiment plus de travail, et pour lui, en fait, on pourrait travailler un tout petit peu, et en échange, en fait, on recevrait très exactement ce dont on avait besoin. Par exemple, notamment dans les années de la liberté, il nous dit dans une de ses chroniques, contre une certaine quantité de travail, et quelle que soit la nature de ce travail, tout citoyen recevrait chaque mois de quoi se payer non seulement le nécessaire, mais aussi un vaste superflu qui rend le cœur léger et la vie douce. Donc, en fait, Barjavel, c'est pas totalement la société du loisir, enfin complètement, mais c'est une partie, on va dire, et comme d'ailleurs chez Thomas More, hein, c'est-à-dire que on essaie de travailler en fonction finalement de ses capacités. Il y a des machines qui essaient de réfléchir à ce qu'on pourrait donner finalement comme type de travail par rapport à sa personnalité et ses capacités, et en échange de ce travail-là, qui est librement consenti, eh bien c'est le cas par exemple dans Gondawa, dans La Nuit des Temps, eh bien on recevrait une somme d'argent, toujours la même, tous les mois, qui permettrait de largement, évidemment, vivre dans un confort total. Je vous rappelle le confort très important chez Barjavel.
Hugo Bellagamba.
Oui, pour réagir tout à fait par rapport à Thomas More, il y a deux points très importants. Effectivement, on peut pas forcément faire un trait d'union comme ça entre Thomas More et Barjavel, mais il y a deux points très importants, c'est que dans l'utopie, le travail reste nécessaire. Simplement, pour que ce travail soit humainement acceptable, pour qu'il soit un chemin d'amélioration de la société elle-même, il y a deux critères, et que l'on retrouve en fait, je pense, dans La Nuit des Temps. La limitation du temps de travail, qui doit laisser un temps au loisir, c'est justement le contraire de travailler plus pour gagner plus, effectivement. Et puis le choix, c'est-à-dire le fait que ce travail corresponde à la personnalité, aux compétences, aux élans, presque aux passions des individus. Et cette idée-là, eh bien, c'est un fil rouge, hein, dans l'histoire de l'utopie. Tout à l'heure, je citais William Morris, mais on pourrait citer Charles Fourier, par exemple, qui, dans Les Phalanstères, montre bien, dans le courant du 19e siècle, que la meilleure ville, la meilleure société, c'est celle dans laquelle chacun ferait ce qui lui plaît, et le ferait bien parce que, précisément, ça lui plaît. Et donc, l'un des rêves utopiques que l'on retrouve prolongé dans la science-fiction, c'est ce choix du travail librement consenti et fait en harmonie avec ce que chacun est. Et pour ça, eh bien, souvent dans la science-fiction, avec le recours à la technologie, il faut l'admettre, hein, on a des sociétés où l'abondance accompagne cette liberté. Or, la difficulté, et avec beaucoup de sagesse, Barjavel le montre bien, c'est que Lorsqu'on n'a pas l'abondance énergétique, lorsqu'on n'a pas l'abondance de ressources, et c'est le cas aujourd'hui dans notre monde, ça devient beaucoup plus difficile de faire exactement ce que chacun aime faire, parce qu'il y a des conditions qui parfois sont contradictoires avec le goût de chaque individu.
La nuit des temps a été publiée en 1968 et au micro de Jacques Chancel, Barjavel revenait sur ce roman en 1969, donc sur France Inter.
L'action se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou enfin, disons, dans un avenir très proche, parce qu'on a une technique tout de même un peu plus avancée que la nôtre. Et cette civilisation qu'on découvre sous 1000 mètres de glace, qui a été enfouie par un cataclysme épouvantable il y a 900 000 ans, représente, si vous voulez, ce que pourrait être notre civilisation, à la fois dans le bien et dans le mal. Donc le lecteur est doublement concerné. Et dans la société de Gondawa, que j'ai décrite avec beaucoup d'application et beaucoup de délectation, j'ai mis vraiment toutes mes idées. Je pense que tout écrivain a un jour besoin d'écrire une utopie. J'ai écrit là l'utopie, n'est-ce pas ? J'ai écrit une société sans malheur, sans argent, sans guerre, où l'on vit l'amour parfait. Et tout ça est possible. Je suis parti de la base suivante, c'est que, enfin, on a trouvé ce qu'Einstein a cherché pendant toute sa vie, et ce que tous les physiciens du monde cherchent encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'équation du champ universel. L'équation qui permettra de puiser dans l'énergie universelle dans laquelle nous sommes baignés, dont nous sommes faits, puisque le cosmos, c'est de l'énergie condensée, et par conséquent, d'avoir de l'énergie gratuite, l'énergie sans déchets, donc c'est la richesse universelle.
Voilà, Barjavel propose une utopie économique dans la nuit des temps et également une réflexion sur la monnaie, Natacha Vazder.
Alors ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est un fantasme de science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction, pour elle, finalement, l'argent compte peu parce que dans ces espèces de sociétés qui pourraient effectivement se rapprocher des utopies, eh bien, tout le monde pourrait avoir accès à une sorte de crédit universel. Dans le Gondawa, par exemple, dans l'utopie du Gondawa, dans la nuit des temps, eh bien, on reçoit une sorte de clé qui est un code en réalité quand on est à peu près à l'adolescence. Et avec cette clé, eh bien, on a accès à ça peut être distribué tous les mois, mais on a accès en fait à une certaine richesse. En fait, c'est pas vraiment une richesse, mais c'est une somme d'argent qui permet de bien vivre. À partir du moment où, de toute façon, la société propose aussi des habitations donc à ses couples. Avec la possibilité ou pas, donc ça c'est vraiment utopique, donc de travailler, avec la possibilité ou pas donc de faire des enfants, c'est-à-dire qu'il y a, pour Barjavel, c'est cette espèce de liberté sociale qui est d'abord conditionnée par finalement une distribution la plus équitable donc possible des richesses. Et donc on ne s'enrichit pas pour s'enrichir, mais on a déjà accès à... on va dire, c'est pas vraiment de l'argent, mais en tout cas, à une richesse, à un certain nombre de biens qui permettent, encore une fois, d'avoir une vie donc particulièrement équilibrée, agréable, sereine. Alors, pas tout à fait d'accord avec ce que dit Barjavel quand même, parce que lui-même, dans son propre roman, eh bien, il y a une guerre totale quand même entre Gondawa et une autre cité qui s'appelle Enizorai, qui est extrêmement guerrière, donc, et tout à fait agressive. Et donc, la paix vole en éclats, bien évidemment. Et puis, il y a quand même dans cette un petit côté dystopique quand même dans le Gondawa, parce que les jeunes gens sont en fait désignés à un moment donné de leur vie pour faire un couple. C'est une cérémonie qui s'appelle d'ailleurs la désignation. Et en fait, c'est une machine qui va réfléchir à comment finalement créer un couple le plus harmonieux possible entre deux êtres, entre un homme et une femme. Et donc ces gens-là, ils ont l'impression en fait d'être des âmes sœurs, alors qu'en réalité, eh bien, leur couple a été prédéterminé. Vous voyez, alors... là, il n'y a pas vraiment de liberté sur ce choix-là et il y a quand même, je dirais, un côté un petit peu inversé, un petit peu dystopique, mais c'est déjà le cas en fait dans toutes les utopies, y compris celle de Thomas More, qui est l'utopie originelle.
Allez, je vous propose d'écouter un extrait de La Nuit des Temps. La clé était la base du système de distribution. Chaque vivant de Gondawa recevait chaque année une partie égale de crédit calculée d'après la production totale des usines silencieuses. Ce crédit était inscrit à son compte, géré par l'ordinateur central. Il était largement suffisant pour lui permettre de vivre et de profiter de tout ce que la société pouvait lui offrir. Chaque fois qu'un Gonda désirait quelque chose de nouveau, des vêtements, un voyage, des objets, il payait avec sa clé. Il pliait le majeur, enfonçait sa clé dans un emplacement prévu à cet effet, et son compte, à l'ordinateur central, était aussitôt diminué de la valeur de la marchandise ou du service demandé. Certains citoyens d'une qualité exceptionnelle, tels qu'Auban, directeur de l'université, recevaient un crédit supplémentaire. Mais il ne leur servait pratiquement à rien, un très petit nombre de gondas parvenant à épuiser leur crédit annuel. Pour éviter l'accumulation des possibilités de paiement entre les mêmes mains, ce qui restait des crédits était automatiquement annulé à la fin de chaque année. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches. Il n'y avait que des citoyens qui pouvaient obtenir tous les biens qu'ils désiraient. Le système de la clé permettait de distribuer la richesse nationale en respectant à la fois l'égalité des droits des gondas et l'inégalité de leur nature, chacun dépensant son crédit selon ses goûts et ses besoins. Hugo Bellagamba, une réaction à ce texte que l'on vient d'entendre ?
Bien, c'est une parfaite utopie, dystopie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle porte en elle le germe de ses limites, elle porte en elle finalement la limite de la liberté de tout un chacun, comme l'a très bien dit Natacha. Et puis pour moi, ça s'inscrit, ça prouve à quel point la culture de l'utopie de Barjavel est bonne d'une certaine façon, parce qu'on retrouve ces thématiques, notamment de la distribution des magasins universels, que l'on retrouve par exemple dans 100 ans après Edward Bellamy, Looking Backward, qui est un livre de 1884, si je ne me trompe pas, qui invente littéralement la carte de crédit, la carte de distribution. Donc cet anneau et ce que décrit Barjavel est exactement dans la continuité de cette tradition utopique. Et puis vous voyez, pour moi, c'est aussi ce qui fait de Barjavel un fabuleux auteur de science-fiction, c'est que il part d'une hypothèse, une hypothèse sociale, une hypothèse économique, et de cette hypothèse économique, il nous décrit un monde qui nous fait réagir, qui montre les limites d'une autre, qui montre justement comment le rapport à l'argent peut évoluer en fonction des circonstances. Et donc c'est un texte, pour moi, La Nuit des Temps, c'est vraiment le grand texte de Barjavel, même si c'est pas le premier, même si parfois certains citent plus volontiers Ravage. Pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il y a un trait d'union très fort, un lien de continuité très fort entre l'utopie, qui est une réflexion économique, sociale et politique, et la science-fiction qu'il a très bien incarné.
On a entendu Barjavel nous expliquer que dans cette civilisation gondawa, les êtres humains n'avaient plus besoin de matières premières, notamment alimentaires, grâce à cette équation chimique et à cette maîtrise de l'énergie solaire. Ainsi, la terre et les éléments donnent tout ce dont les hommes ont besoin. D'où vient chez Barjavel, Natacha Vazder, cette grande préoccupation au sujet de l'alimentation ?
Alors, je pense que là, c'est très simple. C'est par rapport à ses origines, c'est-à-dire son père boulanger, des grands-parents qui étaient donc paysans. Et donc Barjavel, c'est ce que j'appellerais un auteur terrien, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment resté toute sa vie en lien, ben, d'abord avec sa ville natale, bien évidemment, avec Nyons, et puis quelqu'un qui est resté les deux pieds dans la terre, c'est-à-dire qui ne s'est jamais bercé complètement d'illusions, parce que ce qui reste finalement le plus important dans une civilisation, ce qui est la base, c'est évidemment l'eau et l'alimentation et la nourriture, et une nourriture saine. Et on va retrouver, si vous voulez, dans chacun de ses romans, alors des sortes de petites scénettes. Je pense notamment dans Ravage, dans la société technologique. On va retrouver alors quelque chose qui m'a toujours absolument fascinée, c'est-à-dire l'idée de créer une viande synthétique, c'est-à-dire des sortes de brasseries où on fait de la viande synthétique et des pommes de terre synthétiques, et où on vous fait un steak frites, donc totalement synthétique, qui supprime évidemment l'élevage, donc qui pour Barjavel peut apparaître comme cruel par rapport donc aux animaux. Et puis à côté de ça, eh bien dans le roman, on va continuer toujours dans Ravage, à un moment donné, les citadins vont essayer de faire cuire des poules, et puis ça va mal se passer parce qu'ils ne plumes, pas les poules. C'est-à-dire qu'il y a toujours, toujours, dans les romans de Barjavel, des sortes de petites scènes qui nous rappellent vraiment son attachement à la terre, à la ferme, à cette vie agricole. Et d'ailleurs, les survivants donc de ravages, finalement, arrivent dans cette région de la Drôme qui a été épargnée par l'apocalypse. Et à un moment donné, ils traversent un champ de fleurs gigantesques. Ce sont des fleurs qui sont des graines de fleurs qui sont à croissance rapide, qui sont tombées donc dans un champ à partir d'un avion évidemment qui s'est écrasé. Et donc c'est une très belle scène où justement une femme accouche, une des survivantes accouche donc dans ce champ, qui nous montre bien l'attachement de Barjavel pour la vie, la nature et le rapport très fort que l'homme entretient avec la terre et avec la nature. Et pour lui, eh bien la technologie en fait très souvent coupe l'homme de ce rapport en fait à la terre. Et on voit bien qu'aujourd'hui c'est une préoccupation absolument fondamentale avec la crise agricole qui vient de se passer, où on sent bien que, eh bien certainement, peut-être nos politiciens, nos technocrates ne comprennent pas cette vie paysanne, cette vie agricole qui fait la singularité de notre pays.
Oui, pour comprendre pourquoi Barjavel dénonce ainsi l'éloignement toujours plus grand des hommes d'un rapport sain à la terre, à la nature, jusque dans la production de nourriture, il faut rappeler ce contexte des années 30, 40, lorsque les premières farines animales arrivent, Hugo Bellagamba, lorsque dans les campagnes françaises, on commence à utiliser des méthodes de production intensive. Barjavel assiste à cela et il en est assez effrayé.
Oui, et puis c'est pour lui une dénaturation du travail de la terre et des traditions de l'agriculture qu'il connaissait par sa famille et à laquelle auquel il était attaché finalement. Quand il parle de son père et qui pétrissait le pain et quand lui-même disait qu'il faisait son propre pain, c'est une façon de dire en fait peut-être il faut produire ce dont nous avons besoin au quotidien. C'est peut-être d'une certaine façon le refus de la surproduction qui amène à la dénaturation et à la mauvaise façon de s'alimenter finalement. Barjavel, c'est aussi un auteur de la sobriété, un auteur de la prudence. Il y a une forme de prudence chez Barjavel qui n'est pas, encore une fois, hein, il faut vraiment le dire, qui n'est pas un rejet de la technologie en tant que telle, mais qui est plutôt un rejet du tout technologique ou de la facilité. Il y a chez Barjavel une sorte de morale paysanne très ancrée qui est le travail bien fait, c'est le travail durable, c'est ce qui va me permettre de durer et me permettre de survivre. Et cette façon d'envisager le rapport à la terre reste fondamentale dans son œuvre et est très intéressant parce que ça ne fait pas de sa science-fiction une science-fiction réactionnaire ou technophobe. Ça fait une science-fiction qui, parce que précisément elle est ancrée dans la terre, elle a plus de force et elle a plus de puissance évocatrice, et ça ne l'empêche pas d'aller très très loin lorsqu'il imagine cette civilisation de Gondawa 900 000 ans dans le passé, qui remet en cause toutes les connaissances scientifiques que les paléontologues avaient à cette époque-là de l'histoire de la Terre. Eh bien c'est tout à fait passionnant.
Pour vous non plus, Natacha Vazder, on ne peut pas présenter Barjavel comme quelqu'un de réactionnaire ou technophobe ?
Alors, réactionnaire et technophobe, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait reprocher à Barjavel par rapport à son côté réactionnaire, c'est le rôle des femmes, justement, dans ces romans. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même aborder, on va dire, cette dimension-là. Notamment, bon, on est en 1943 dans Ravage. Enfin, je veux dire, il n'est pas le seul non plus, évidemment, à avoir ce type d'idée-là. Mais dans, finalement, son utopie régressive, eh bien, les femmes sont quand même essentiellement là pour faire des enfants. Voilà, et il y a ça, c'est vraiment une vision, je dirais, très très réactionnaire évidemment, donc des femmes. Mais par contre, en 1968, c'est-à-dire autre contexte, et notamment dans La Nuit des Temps, eh bien donc Eléa, l'héroïne féminine, a un rôle tout à fait différent, puisque elle est la stricte égale en fait donc de son compagnon Païkan, et c'est vraiment, si vous voulez, une héroïne à part entière, totalement autonome, qui est dans cette utopie, un petit peu comme eh bien les femmes sont traitées évidemment dans souvent de très nombreuses utopies, c'est-à-dire y compris chez Thomas More, il y a cette égalité là. Voilà, et donc cette technophobie, si on est à un premier degré, Cela peut apparaître, et encore une fois, vraiment, par exemple, dans Ravage et dans Le Diable l'emporte, c'est-à-dire dans ces deux premiers romans de science-fiction qui ont quand même été fortement influencés par la vision des villes bombardées et de la guerre. Il y a cette vision d'apocalypse quand même chez Barjavel. On entre donc dans le contexte de la guerre froide, et en 1948, bah oui, évidemment, Le Diable l'emporte, donc la Terre est totalement détruite, là aussi, par une apocalypse. Mais c'est pas pour ça, je pense que quelques années plus tard, Barjavel est vraiment technophobe. C'est quelqu'un qui va réfléchir à l'utilisation la plus pertinente de la technologie, et notamment, justement, encore une fois, dans La Nuit des Temps, il y a par exemple la maîtrise du solaire. Alors Barjavel détestait le pétrole, puisqu'il disait la civilisation moderne s'est bâtie sur une charogne, cette pourriture, c'est le pétrole. Il y a cette notion de travail non obligatoire, d'absence de monnaie, donc de crédit universel. Donc c'est la technologie qui va sous-tendre en fait tout ce progrès social et ce progrès finalement dans lequel l'humanité s'épanouit. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de technophobie, il y a une réflexion sur la technologie, il y a une réflexion sur les modes de production, il y a une réflexion sur la monnaie, sur l'économie, qui effectivement évolue au gré d'un contexte. Mais Barjavel n'est pas un auteur monolithique, et donc il faut lire l'ensemble de ses romans pour comprendre ses positions.
Avant de se quitter, j'aimerais vous faire entendre un extrait de Ravage, donc dans cette société ultra-technologique où les machines produisent l'alimentation des hommes. L'humanité ne cultivait presque plus rien en terre. Légumes, céréales, fleurs, tout cela poussait à l'usine dans des bacs. Les végétaux trouvaient là, dans de l'eau additionnée, des produits chimiques nécessaires, une nourriture bien plus riche et plus facile à assimiler que celle dispensée chichement par la marâtre nature. Des ondes et des lumières de couleurs et d'intensités calculées, des atmosphères conditionnées accéléraient la croissance des plantes et permettaient d'obtenir, à l'abri des intempéries saisonnières, des récoltes continues du 1er janvier au 31 décembre. L'élevage, cette horreur, avait également disparu. Élever, chérir des bêtes pour les livrer ensuite au couteau du boucher, c'était bien là des mœurs dignes des barbares du XXe siècle. Le bétail n'existait plus, la viande était cultivée sous la direction de chimistes spécialistes et selon les méthodes mises au point et industrialisées du génial précurseur Carrel, dont l'immortel cœur de poulet vivait encore au musée de la Société protectrice des animaux. À travers sa réflexion sur la nature, sur le vivant, peut-on dire que Barjavel prône une vision écologique avant l'heure, Hugo Bellagamba ?
D'une certaine façon, je pense que oui, absolument. La science-fiction a toujours été en prise directe avec la question du rapport de l'homme à son environnement. Et donc, on pourrait dire que par essence, la science-fiction est écologique. Mais la thématique de l'écologie dans la science-fiction, elle a mis du temps à venir, elle a mis du temps à s'installer. Aujourd'hui, elle est évidemment très présente. On parle d'écotopie, on parle même du courant solarpunk dans la science-fiction. Il y aura peut-être un jour une émission sur le solarpunk, d'ailleurs, à Entendez-vous
l'écho.
Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que Barjavel est un précurseur de ça, de ce rapport. Pour revenir au tout début de ce qu'on disait au tout début de l'émission, de ce rapport entre la technologie, l'intelligence humaine appliquée à sa survie et le rapport à l'environnement. Ce qu'il nous montre, au fond, ce que nous montraient d'ailleurs les premières utopies, c'est que oublier et ne pas prendre en compte l'environnement dans lequel on se trouve et les limites de cet environnement, c'est courir à la ruine, tout simplement. Et c'est une thématique que l'on va retrouver dans les grands classiques de la science-fiction, à commencer par Dune, par exemple, de Denis Villeneuve, mais il faut relire le texte de Frank Herbert, qui est aussi une grande réflexion sur l'écologie. Donc de ce point de vue-là, je pense que relire Barjavel est plus utile que jamais dans la perspective de la question écologique aujourd'hui.
Natacha Vazder.
Oui, tout à fait. Et je citerai Barjavel parce que là encore une fois, dans ses chroniques journalistiques, il nous dit en 1970, l'homme n'est plus qu'un moyen de production et de consommation au lieu d'être le but et la fin. Et donc, je pense que la dimension écologique de Barjavel, c'est encore une fois de replacer l'homme au centre, finalement, de notre civilisation, même extrêmement moderne, et de bien comprendre, finalement, quelle est la place de l'humain et quelle est sa fonction au sein de cette civilisation. Pour lui, la société industrielle contemporaine, qu'elle soit capitaliste d'ailleurs ou marxiste, a écrasé l'homme, l'a enfoncé dans la laideur, la puanteur, la fatigue, et elle va le contraindre d'ailleurs au mouvement perpétuel. Et donc, sa réflexion, pour moi, écologique, c'est d'abord, d'une part, la place de l'homme dans la civilisation qu'il se construit, ne jamais oublier la part d'humanité, et deuxièmement, ne jamais oublier la place de l'homme au sein de la nature. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de double réflexion chez Barjavel, et il faut, comme le disait Hugo, ne jamais oublier son environnement et ne jamais surtout oublier donc la nature. N'oublions pas non plus que Barjavel, c'est un auteur qui a été influencé par un certain nombre donc de penseurs utopistes, comme par exemple Vasco de Lanza, et puis donc des gens qui l'ont fait réfléchir sur la notion de bonheur. Et pour lui, le bonheur eh bien, se trouve dans l'équilibre, dans la sérénité, c'est-à-dire dans quand l'homme trouve sa place véritablement au sein de la nature et non pas au sein d'une civilisation qu'il a lui-même contribué à créer et qui va finalement l'écraser.
Pour conclure, en quoi la lecture de Barjavel, qui a disparu en 1985, nous permet-elle de découvrir l'économie, de comprendre peut-être l'économie autrement, Hugo Bellagamba ?
Eh bien, elle nous interroge sur nos certitudes, en fait, la lecture de Barjavel. C'est-à-dire qu'il aime à nous montrer des sociétés qui, sûres d'elles-mêmes, finissent par s'effondrer. Et c'est pas par catastrophisme, hein, c'est pas pour jouer les prophètes qu'il le fait. C'est pour nous montrer les limites de nos modèles. Et en fait, si ces modèles deviennent trop dogmatiques, et notamment les modèles économiques, eh bien, si nous ne sommes pas capables de les repenser, et c'est ça qu'est la science-fiction, hein, fondamentalement, c'est l'invitation à faire un pas de côté pour regarder autrement notre société. C'est ce changement de point de vue, de référentiel, et c'est exactement ce que fait Barjavel. Donc, le relire aujourd'hui, relire Ravage, me paraît tout à fait intéressant, sans oublier, bien sûr, de toujours le remettre dans le contexte dans lequel le texte a été écrit. Et puis, relire La Nuit des Temps aussi, parce que je crois qu'on a besoin... On a besoin d'utopie. On n'aura pas dans un futur proche un Gondawa tel qu'il le décrivait il y a 900 000 ans, mais on a besoin aussi de croire que des alternatives sont possibles, et ces alternatives ne pourront pas se faire sans considération économique. Et ça, c'est au cœur de l'œuvre de Barjavel aussi.
Natacha Vazder.
Oui, absolument. Et puis, je crois que relire René Barjavel à travers, par exemple, La Nuit des Temps, je l'ai relu il y a vraiment très peu de temps pour un futur travail, une future publication. Et j'ai toujours été extrêmement finalement fascinée par sa capacité d'analyse, non seulement de la société contemporaine. Alors, même si on était en 1968 avec l'équilibre donc des forces en plein cœur de la guerre froide, hein, puisqu'il y a deux récits dans La Nuit des Temps, le récit utopique du Gondawa et puis le récit bien évidemment des scientifiques. Et je crois que cette lecture-là, en fait, elle nous apporte. Alors Hugo parlait d'une sorte de, je dirais, de pas de côté de l'utopie. Moi, je pense que la science-fiction nous fait prendre en fait un chemin de traverse. Et je reprends évidemment une expression de Thomas More, c'est-à-dire que ce soit utopie ou science-fiction, on est sur des fictions qui nous permettent finalement de nous dédoubler, de regarder notre propre monde, notre monde contemporain, même avec un roman écrit en 1968, eh bien on a quand même des éléments pour se dire attention, nous sommes pris dans une espèce de course temporelle par rapport à un progrès que l'on ne maîtrise absolument plus, et on le voit très très bien d'ailleurs par rapport à la guerre en Ukraine et au contexte géopolitique international, on se retrouve presque, je dis pas tout à fait, mais presque avec les mêmes menaces, par exemple, que dans les années 80. Et donc, toujours avoir ces récits de science-fiction à l'esprit, eh bien, ça nous permet certainement, en prenant ce pas de côté ou ce chemin de traverse, d'analyser avec beaucoup plus de pertinence le monde dans lequel nous vivons.
Un immense merci Hugo Bellagamba et Natacha Vazder de nous avoir accompagnés dans l'univers économique de René Barjavel. Natacha Vazder, vous publierez à la rentrée prochaine une édition critique de La Nuit des Temps de Barjavel chez Nathan. On l'attend avec impatience. Et Hugo Bellagamba, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, ce dictionnaire utopique de la science-fiction qui est paru aux éditions du Bélial l'an dernier. Un immense, immense merci à tous les deux. Et merci également à Jean-François Salé de France Bleu Azur qui a assuré ce duplex. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Demain, Alia Tovin reviendra sur le rêve d'un salariat sans entreprise, 4 ans après le confinement, avec Claudia Sénic, Claude Didry et Cyrine Garde. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.